Le mardi, dans la deuxième partie de l'AIM, on vous propose le plateau des marottes, les sujets qu'on aime et qu'on veut partager avec vous, des idées de sortie dans le Finistère aussi. Aujourd'hui au micro, il y aura Marie Cultive qui est là. Bonjour Marie.
Bonjour Véronique.
Il y aura aussi une nouvelle voix, Tristan Legros, qui est reporter en service civique cette saison et qui s'intéresse aux enquêtes journalistiques bretonnes, surtout à thème agricole. Et puis il y aura Mon Grain de Sel qui vous rendra justice et qui vous illuminera aussi. Marie, on commence avec toi. Et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment protéger nos plantes du froid, puisque l'hiver arrive très très bientôt là.
Bah oui, 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 ça y est, on arrive en plein cœur de l'hiver. Hein, la semaine prochaine, on entre même en hiver. Et donc du coup, l'idée, c'était de se poser la question de bah ouais, mais plus il fait froid, plus mes plantes risquent de souffrir. Que dois-je faire ?
On ne sait pas, d'ailleurs, s'il va faire très froid. On a eu un petit coup de froid, là.
Ouais, ouais, on a approché les 0 degrés, mais généralement, on a tendance à s'inquiéter pour nos plantes, même en dessous de 5 degrés, de considérer que la rusticité de nos plantes peut être atteinte.
On a peut-être tort, d'ailleurs. Ça doit dépendre, j'imagine.
Ouais, en fait, ça dépend de plusieurs facteurs. C'est quand même pas à tort qu'on pense ça. Hein. C'est assez légitime. Et donc, du coup, je me suis dit, ce serait peut-être l'idée d'y penser maintenant pour anticiper un peu. Quoique, il y a certains plans qui sont déjà installés. Donc, du coup, il va falloir prendre les mesures où il aurait fallu prendre les mesures avant. Donc, voilà. On va pouvoir distinguer plusieurs risques sur les plantes. Donc, les plantes qui sont en pot... et qui sont sur la terrasse, qui peuvent craindre le froid. Donc, par là, j'entends le bougainvillier, le polygala, les agrumes, parce qu'on en voit de plus en plus. Ça, il s'agirait de les rentrer.
Carrément à la maison.
Ouais, dans une véranda.
Ouais.
Comme c'était le cas, en fait, à Versailles.
Donc, pas une véranda chauffée, mais une véranda. Quoi.
Oui, oui, pas nécessairement chauffée. Hein, en fait, l'idée, c'est qu'elles évitent d'attraper un coup de gel. Les agrumes, en plus, ils sont en fruits, normalement, en ce moment.
Mais oui, c'est la saison.
Exactement.
Parce que maintenant, il y en a des agrumes dans le Finistère. On en cultive.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et il y a même quelqu'un qui en cultive dans le sud Finistère. Et
professionnellement.
Oui, ah ouais. Tout à fait. Qui cultive des plants qui ont été acclimatés.
Voilà.
Bon. Donc ça, c'est, on atteint quand même un autre niveau. Des plantes qui ont été acclimatées au climat breton. Il a fait 15 ans d'essais, de boutures et tout ça. Un jour,
orange,
peut-être...
Orange, citron, plutôt, non ?
Ouais, il y a des oranges, citrons. Je crois qu'il doit y avoir de la mandarine. Il y a des fruits de la passion aussi. Donc là, on n'est plus sur les agrumes, mais on est sur des plantes qui craignent le gel aussi. Avocat, je crois, il fait aussi.
Bon, là, il faut les mettre donc... presque au chaud, quoi. Enfin,
plutôt, en intérieur, les rentrées. Dans un endroit où ils bénéficient quand même d'un peu de lumière, c'est pour ça les vérandas, les bow windows, les extensions, c'est plutôt pas mal.
Et si on a des aromatiques en pot, je sais pas, des aromatiques quelconques, hein, style sauge, enfin, on peut les laisser dehors
Ah, alors, sauge, thym, romarin, ça ne craint absolument pas le froid. Ce qui va craindre, ça va être clairement le basilic.
Oui, bon là, de toute façon, il ne faut pas rêver, on ne va pas vraiment le garder.
Non, il y a des gens qui arrivent à le garder en intérieur. Moi, je n'ai jamais réussi, j'ai toujours chopé des petites bêtes dessus. Donc,
On laisse tomber.
Voilà. Après, il y a peu d'aromatiques qui craignent le gel. Quoi. Ciboulette, aucun souci. Ce qui va plus être pénible pour la ciboulette, ça va être l'humidité. Et donc ça, on va en parler aussi parce que c'est un critère qui peut parfois pousser les plantes au bord du gouffre. Oh. c'est-à-dire que très régulièrement, quand on a des plantes en pleine terre, en Bretagne, on a un petit peu de pluie parfois.
Un peu, l'hiver, ça arrive.
Et donc du coup, le risque, le plus gros risque pour les plantes, c'est quand il pleut beaucoup en peu de temps, que le sol est gorgé d'eau, que les racines baignent et que d'un coup... Bouf, chute des températures, gros coup de froid, les racines gèlent et ça éclate. C'est vraiment souvent ça le risque. Parce que des plantes, comme ils ne gèlent pas beaucoup ici, c'est peu un gros souci. Mais généralement, on a des petites périodes de gel après des périodes d'humidité intense et donc du coup, ça fait éclater les racines. Du coup, ce que je suggère, c'est d'éviter de planter des plantes fragiles dans un sol trop riche,
enfin, trop argileux.
Trop argileux, ouais. Exactement. Mmh. J'allais dire trop peu drainant.
Ouais.
Ou sinon, d'agrandir ce trou quand vous faites une plantation. Donc ça, c'est en amont. D'agrandir, de faire un plus grand trou et à ce moment-là, de drainer le trou.
On met du sable, enfin, qu'est-ce
vous
qu'on
pouvez
fait,
mettre ouais. du sable, mmh. des gravillons, du compost,
mmh.
Décompacter la terre et de manière à améliorer un peu sa structure pour que ça soit plus drainant, que du coup l'eau ne reste pas stagnée, puisse s'infiltrer ensuite. Donc ça, c'est quand même un grand conseil. Sur les cultures, notamment de légumes, bah, c'est possible de les mettre sous châssis, de les mettre en serre, de les protéger par des voiles d'hivernage.
Quel type de légumes, par exemple ?
Quel type de légumes ? Les patates craignent le froid.
Oui, mais, si on ne les a pas récoltées, en fait.
Oui, oui, non, oui. mais même on considère que si vous, semez, enfin, si vous plantez des patates au mois de février...
Ah oui, bah, oui, d'accord.
Le gros
encore,
risque.
Mais ouais.
bah, oui, oui, mais en fait, sur bien la sûr. Protection du froid...
il fera froid, en février.
A priori. Enfin, en tout cas, c'est souhaitable.
Bah oui.
Parce qu'on a plein de plantes qui ont besoin d'une période de froid aussi pour avoir le repos végétatif. Donc, les légumes qui craignent le froid, voilà. Bah après,
donc là, les patates, qu'est-ce qu'on fera pour les protéger du froid ?
Eh ben, on va pailler.
Voilà.
Voilà, on y arrive, Je gardais le suspense ouais. jusqu'au bout, jusqu'à ce que Véronique me tire les vers du nez. Donc oui, oui, on va pailler, une bonne couche de paillage. Alors, que me demanderez-vous, chers auditeurs ?
Avec quoi ?
Avec quoi paillons-nous ? Eh bien, on paille avec, par exemple, de la paille. Mais on va pouvoir pailler avec aussi des ressources qui sont gratuites au jardin, à savoir des feuilles mortes, des copeaux de bois avec de la tonte. Bon là, normalement, vous n'êtes plus en train de tondre.
Non, mais là, ça... c'est fini là.
Mesdames, messieurs, on arrête de tondre. Ça bourre la tondeuse, ça pousse n'importe comment. On fait une pause. Et donc du coup, mais avec les tontes sèches, on paille, donc on met une bonne couche, une dizaine de centimètres. Et ça vaut pour tous les plants qui peuvent craindre le gel. On parlait en off du coquerel du Pérou, de l'amour en cage, le physalis, c'est une plante qui craint le gel.
Eh oui.
Qui est vivace dans son pays. Donc,
normalement, elle doit passer l'hiver.
Exactement, ouais. exactement. Et elle peut même donner jusqu'à très tard dans l'hiver des fruits.
Tout à fait.
Juste, quand on a un coup de froid, bah... du mal à résister.
Quoi. Ouais, c'est à tout le temps. Ouais. Et donc là, un paillage, ça peut aider, mais il faut le couper un peu avant. Donc.
Ouais, alors souvent, quand on en est avec des plantes vivaces qui craignent le froid, souvent, on les ratiboise. Quoi. Moi, ma verveine citronnelle, je la ratiboisais à 20 cm et je paillais à fond de manière à ce que bah, elle puisse passer l'hiver. Donc, elle était dans un sol drainant déjà, les racines étaient plutôt protégées. Le paillage va protéger et le sol et la plante. Et donc, du coup, au printemps, elle repartait de plus belle.
Et est-ce que mon plant d'aubergine qui était dans ma serre, il va passer l'hiver ?
L'histoire ne le dit pas, mais j'ai déjà ma petite idée.
C'est pas une vivace, peut-être, l'aubergine ?
Alors ça, c'est une très bonne question. Il faudrait que je me renseigne sur la question.
Parce que ça ressemble un peu à une vivace, mais bon... fait un plant assez costaud, avec une tige assez forte.
Ouais, ouais, ouais. Et ben, il faudrait que je me penche sur la question. Je me note ça à...
On mène l'expérience et on verra bien si ça passe l'hiver.
Exactement.
Okay. Il y a les petits fruitiers, ouais, on les a taillés. C'est pas la peine de les pailler pour les protéger de, enfin, je sais pas, cassis, framboises, tout ça.
En fait, de toute façon, paillez-les. Paillez-les parce que un paillage protège, quoi qu'il arrive, la vie du sol. Vous allez protéger les racines, vous allez protéger les petites bêtes qui y vivent, vous allez offrir du coup une protection contre trop de soleil. De toute façon, on ne laisse pas la terre à nu, donc on paille avec tout un tas de matériaux. Hein. Moi, je suis adepte des copeaux de bois, je trouve ça super. Je trouve ça joli en plus.
Et les arbres, on les paille pas quand même ? Enfin, les arbres, je veux dire, de chez nous, enfin, les pommiers...
Non.
Ouais.
Non, non.
Eux, ils n'ont pas besoin.
Non, 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 pas du tout. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir à protéger du froid. Non, c'est vraiment plus les plantes ornementales qui posent souci.
Oui, et nos massifs fleuris. Alors voilà, on ne va quand même pas les mettre sous... Enfin si, on peut les mettre sous paille, mais sinon, est-ce qu'on leur met des voiles? Je ne sais pas.
Ouais, alors moi, je ne suis pas du tout adepte des voiles. Ouais. Je pars du principe que, de toute façon, une plante, pour qu'elle s'implante, il faut qu'elle vive dans les conditions qu'on lui propose. Par exemple, une agapanthe, elle va geler, mais elle va repartir.
Eh ouais,
bon. C'est assez rare qu'une agapanthe meure complètement de froid. Après, évidemment, mon petit côté écologiste, protection de la nature, va quand même vous encourager à plutôt prendre des plants qui résistent
au
froid. Et du coup, d'avoir moins ce souci de se dire « Ah, faut que je fasse attention. » Je ne suis pas très adepte des palmiers, par exemple, que je trouve trop fragiles.
Nous sommes d'accord.
Mais à la fois, c'est quand même très joli un palmier dans un jardin, et pour la plupart, ils survivent très très bien sous nos contrées. Donc
voilà, donc gel, humidité, et puis vent éventuellement peut-être, non? Il y a plus
protection,
de vent l'hiver.
Protection ouais. Du vent, dans ce cas-là, ça va être quelque chose qu'on appelle le haubanage. Donc,
Des haubans.
Ouais, on va...
Sur certaines plantes, lesquelles?
Les plantes qui sont en isolé, qui peuvent craindre le froid, quoi. Et sinon, il y a un système d'ancrage, quoi. Yeah. Donc ça, c'est pas mal utilisé dans les communes pour protéger du vent et pour éviter, accrochez-vous, les vols.
Ah oui, d'accord, on ancre la plante.
Ouais. Et donc du coup, soit la mode de la plante, il y a des plombs.
Ah
ouais,
carrément.
Ouais, il y a des plombs, enfin des poids dans la mode, du coup, pour que la plante reste en place. Soit on va utiliser un système de cordon métallique pour l'arnacher au sol.
D'accord.
Au cas où on ait une tornade, on ne sait jamais. Ou sinon, un système de tuteur de base. Quand vous plantez un arbre, on tuteur, quoi qu'il arrive, avec un piquet en châtaignier. Pas un bambou, hein. Pas un petit truc qui se casse très vite. On met un piquet châtaignier, on attache délicatement l'arbre. Pas forcément besoin de serrer au max. L'idée, c'est juste que si le piquet est enfoncé de 50 ou 60 cm, normalement, ça bouge quand même beaucoup moins. Nos arbres qu'on a ici ne sont pas forcément à protéger du froid. En revanche, on va avoir un certain nombre d'arbres, albizia, mimosa. On va avoir aussi certains arbres comme le tulipier de Virginie qui n'aiment pas être exposés en plein vent. Et donc dans ce cas-là, on va éviter des zones complètement de courant d'air où l'air va tourbillonner de froid et donc du coup qui va potentiellement faire sécher et casser et faire mourir la plante.
D'autres choses à ajouter sur la protection du froid ?
Ouais, tout à fait. Une dernière chose, c'est que quand on mélange les espèces, on a quand même moins de risques. Et de mettre un arbre avec un arbuste et éventuellement des plantes couvre-sol, ça fait en sorte que le massif s'auto-protège du froid.
Eh bien, merci beaucoup, Marie.
T'en prie, Véronique.
Alors, Tristan, c'est à toi. Tu t'intéresses aux sujets agricoles, aux enquêtes aussi. Et justement, il y avait un livre qui te faisait de l'œil en cette fin d'année. Quel est ce livre ? Bonjour déjà.
Bonjour.
Alors, de quel livre vas-tu nous parler ?
Alors, je vais vous parler de la bande dessinée Champ de bataille, l'histoire enfouie du remembrement, qui est la dernière enquête d'Inès Leroux sur le remembrement en Bretagne. Et elle a été accompagnée d'un conseiller historique qui s'appelle Léandre Mandard. Et les dessins sont signés Pierre Van Hove.
C'est une bande dessinée, donc. Et le remembrement, alors je pense que les gens savent ce que c'est, mais il faut peut-être donner quand même une idée de ce que c'est.
Y a cette phrase dans la BD que je trouve vraiment très, très parlante. C'est « adapter le paysage au tracteur ». Donc le remembrement, c'est le nouveau tracé en fait, des terres agricoles fait par l'État à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Les haies et les talus qui autrefois bordaient les espaces sont éliminés par des bulldozers afin d'en former de plus vastes. Et le remembrement, c'est lié à l'agriculture intensive en fait, qui arrive avec de plus grandes terres et une plus grande productivité et pour encore plus de rendement.
Donc on fait des grandes parcelles, en fait, c'est ça. Parce qu'avant, une mosaïque de petites parcelles.
Exactement, c'est ça.
Mmh. Et parce que voilà, les tracteurs aussi sont devenus très gros. C'est le progrès, n'est-ce pas ? C'est présenté comme un progrès, j'imagine. Ça commence donc dans les années 50. Et ça va durer combien de temps, à peu près ?
jusqu'à la fin des années 70, je crois.
Et ça, c'est bon, l'aspect historique, c'est peut-être pas le premier, je ne sais pas. Il se trouve que là, la bande dessinée prend place en Bretagne. Alors pourquoi en Bretagne ? Enfin, le remembrement, il a eu lieu partout, hein, on est d'accord.
Oui, c'est vrai. Parce qu'Inès Leroux enquête depuis plusieurs années sur la Bretagne. Et j'imagine que c'est pour ça qu'elle a pu faire vraiment une focale en fait, sur l'histoire du remembrement en Bretagne en spécifique, même s'il y a des apartés sur d'autres remembrements ailleurs en France.
Oui, puis on sait qu'elle a travaillé sur les algues vertes, notamment. Alors, comment est-ce qu'elle a procédé pour réaliser cette enquête ? C'est une enquête journalistique, c'est ça ?
C'est ça, ouais. Alors, c'est une enquête de terrain sur plusieurs années avec beaucoup de témoignages oraux, des documents dans la presse locale et nationale, des archives personnelles, en fait, de particuliers qui ont pu vivre le remembrement. Et aussi l'aide du doctorant Léandre Mandard, qui, lui, travaille sur le remembrement pour sa thèse.
Qui est donc un historien, lui. Hein.
C'est ça.
Elle explore, j'imagine, beaucoup d'aspects du remembrement, mais lesquels ? Quel est l'angle en particulier ?
Alors, au-delà d'en apprendre pas mal sur l'histoire en fait, de ce processus, de ces acteurs, en fait, l'angle, c'est plutôt une voie en fait, aux résistances qui ont pu être là en fait, pendant ce remembrement. Où, du coup, il y a beaucoup de témoignages en fait, d'enfants qui ont vécu le remembrement comme un traumatisme, mais aussi en fait, des histoires de militants ou de lutte en fait, locale contre le remembrement.
Oui, parce qu'il ne faut pas croire. On s'était présenté comme un progrès. Ce n'est pas passé comme une lettre à la poste, en fait, c'est ça.
C'est ça. Ouais. Il y a eu beaucoup d'opposition et aussi de grandes répressions de la surveillance policière, beaucoup. Et aussi de la psychiatrisation et de l'internement pour des opposants qui ont fini donc internés en hôpital psychiatrique et qui ont été broyés en fait, par... par les pro-remembrements, quoi.
Les opposants, ils s'opposaient pour quelles raisons ?
En fait, il y a eu toutes sortes de motifs d'opposition. Je sais qu'il y a eu beaucoup de recours, qu'on pour la plupart, tous étaient refusés. Certains, c'était pour garder en fait, leur pommier dans leur jardin. D'autres, je pense, avaient des consciences plus politiques, en fait, et ne voulaient pas se positionner déjà en fait, contre cette modernisation et en fait, le fait que c'était aussi imposé comme politique. Donc en fait juste d'avoir le droit de dire qu'on voulait en fait garder son espace tel qu'il est.
Et là les témoins qui témoignent dans la BD, donc c'est les gens qui étaient enfants qui maintenant évidemment sont très âgés, hein, c'est ça ? Il y en a combien à peu près ?
Je sais plus exactement, mais trois il me semble.
Oui,
3, 4, peut-être.
Il n'y en a pas une dizaine non plus.
Non.
Oui, donc c'est les gens qui ont particulièrement souffert de ça. Et donc qu'est-ce qui toi t'as plu déjà dans cette BD ? Qu'est-ce qui t'a marqué ?
Moi, ce qui m'a plu, c'est vraiment cette histoire en fait, des luttes, contre le remembrement et aussi les témoignages en fait, de ces enfants qui ont maintenant plus de 90 ans, qui sont très touchants parce qu'on y a toujours ce regard en fait, d'enfant qui a vécu carrément un bouleversement psychologique et de son paysage intérieur, intime en fait, que je trouve très touchant. Et aussi, en fait, il y a... le lien entre l'enfant et les animaux qui étaient en fait avant les tracteurs acteurs pleinement en fait de l'agriculture qui eux pour beaucoup ont dû être vendus en fait pour être substitués par les tracteurs ou alors pour avoir de l'argent.
Ah oui, la traction animale quoi, c'est ça, ils ont perdu leurs animaux en
c'est
fait.
Ça.
Est-ce que tu peux nous faire un commentaire sur le dessin, puisque c'est une bande dessinée ? Alors c'est vrai que parfois c'est pas toujours facile, hein, les enquêtes racontées en bande dessinée.
Moi, ce qui me plaît vraiment dans le dessin, c'est en fait quand il y a des témoignages de personnes qui ont vécu le remembrement enfant. Par exemple, je pense à celui de Jacqueline Le Goff. Les dessins deviennent rouges et ça permet vraiment de représenter le remembrement. Et là, dans ces pages-là, en fait, le tracteur comme un monstre qui détruit, qui vraiment broie tout. Et ça permet aussi vraiment de montrer la violence et le traumatisme que ça a pu représenter.
Ça crée une dramatisation.
C'est ça. Ouais.
Eh bien, merci beaucoup, Tristan.
Merci.
Donc, on peut offrir ça à Noël, c'est ça ? Tu peux nous redire le titre, les auteurs ?
Alors, c'est « Champ de bataille, l'histoire enfouie du remembrement », édité par Delcourt, d'Inès Leroux et dessin de Pierre Van Hove.
Merci beaucoup.
Merci.
et je vais mettre mon grain de sel dans ces marottes et vous signaler un rendez-vous en particulier à l'agenda. À Crozon, il existe une association qui est liée à un lieu culturel, ça s'appelle la Maison des Trois Métiers. Alors elle a proposé un concert vendredi dernier. Demain soir, c'est une causerie sur le thème de la justice et c'est Thierry Fenois qui en est l'invité. Il préside la Ligue des Droits Humains, la Presqu'île de Crozon, on l'avait déjà interviewé à ce sujet. Et on l'avait aussi reçu il y a quelques mois autour de son livre de souvenirs, Advocatus, Habiter la parole, et il nous expliquait comment il avait exercé ce métier.
Bien évidemment que nous savons que nos clients sont très souvent coupables.
Et ils ne disent pas toujours la vérité à leur avocat.
Ils ne nous disent pas tout, mais c'est aussi à nous d'avoir la compétence, l'intuition, la psychologie,
faut être psychologue, en fait,
la,
ça, ouais.
la ruse parfois, de leur et l'accompagnement, et de leur faire comprendre qu'ils doivent nous dire la vérité. Et que plus ils nous diront la vérité, et mieux ils seront défendus. Et combien de fois c'est l'avocat, moi comme les autres, qui va permettre à son client d'évacuer son aveu, son crime, d'être beaucoup mieux défendu. Parce que moi, je ne suis pas un menteur professionnel. Si le crime est, ou le délit, hein, si c'est manifeste, si en plus c'est reconnu, je vais tenter d'expliquer pourquoi.
C'est ça.
Et c'est ça qui est important. C'est de dire, mais voilà, ce geste-là, il a une histoire. Il a été prévu, enfin, rien n'était prévu, mais c'est une dizaine de minutes parfois. Il ne faut pas très longtemps, même pour tuer quelqu'un, c'est dramatique, mais ouais. Il faut parfois une minute. Mais c'est donc quelques minutes au milieu d'une vie de 30 ou 40 ans où il s'est passé autre chose.
Et ça compte, ouais, dans les jugements. Hein. Ouais.
Alors, je vais vous dire que quand le client s'acharne à nier des évidences, l'éthique de l'avocat oblige l'avocat à aller dans le sens de son client. Mais je peux vous dire que les juges, ils ne s'y trompent pas. Il faut choisir.
Donc Thierry Fenois qui vous propose une causerie sur la justice, c'est à suivre à la Maison des Trois Métiers de Crozon, c'est demain soir à 20h30. Et c'est ainsi que se termine cette émission, merci de l'avoir suivi, merci aux marottes. Dans le LEM de mercredi, c'est Pierre-Yves Boussard qui commande.